Europe 1. Et si on partait ? Philippe Googler.
Et si on partait sur Europe 1 ? Nous sommes au Pérou, toujours, j'adore ce pays. C'est un pays où on peut faire 14 voyages sur un seul...
Ça, c'est sûr.
C'est vraiment merveilleux, le Pérou. C'est vraiment un voyage à conseiller. Le jour où vous avez la possibilité de faire ce voyage, n'hésitez pas une seconde. Emmanuel Jarry, vous êtes à l'origine du programme fameux sur Internet qui s'appelle « C'est meilleur quand c'est bon ».
Et c'est vrai, non ?
Ouais.
C'est meilleur quand c'est bon.
C'est vrai, c'est meilleur quand c'est bon, vous avez raison. Et au Pérou, qu'est-ce qui est bon alors ?
Ah bah alors, au Pérou, c'est le grand pays, enfin, il y a eu un boom médiatique ces dernières décennies. Hein. On a beaucoup parlé des chefs péruviens, il y en a qui sont mondialement connus comme Gaston Acurio, qui est le roi du ceviche. Je ne sais pas si vous êtes allé dans son restaurant à Lima.
Je ne suis pas allé dans son restaurant, mais j'ai mangé beaucoup de ceviche.
Ah ouais, c'est voilà, c'est donc poisson cru avec ce jus de citron, oignons, coriandre. Il y a la cuisine Nikkei, c'est un mélange de cuisine japonaise et latino-américaine. Mais à mon avis, le plus formidable au Pérou, ce sont les picanterias.
Les picanterias, ça, j'ai pas connu.
Alors ça, ce sont des restaurants traditionnels d'Arequipa, tout au sud du pays, la ville d'Arequipa, et c'est la capitale de la gastronomie péruvienne, comme Lyon est la capitale. Je vais peut-être fâcher certaines personnes, mais la capitale de la gastronomie en France.
Vous y allez fort.
On y va fort, mais c'est pas grave. Ouais. Alors, en tout cas, bon, Arequipa, grande ville de gastronomie, les picanterias, c'est vraiment l'âme d'Arequipa. Et ce sont plus que des restaurants, ce sont des lieux d'histoire, de mémoire. C'était autrefois des endroits de mixité sociale où différentes classes se retrouvaient. Les ouvriers, les paysans, des avocats, tout le monde se mélangeait par amour de la bonne cuisine et de la chicha. Alors la chicha, c'est une boisson préhispanique élaborée...
La chicha.
Chicha, oui, c'est vrai.
La chicha, c'est pas tout.
C'est pas vrai, c'est vrai.
La chicha, c'est égyptien. C'est égyptien, ça n'a rien à voir.
Alors la chicha, c'est une boisson donc, à base de maïs fermenté, une fermentation très courte, donc il y a très peu d'alcool, et c'est très important dans les picanterias parce que c'est la boisson qu'on consomme à table, mais c'est aussi celle qui est utilisée pour la cuisine, donc c'est la colonne vertébrale des picanterias, la chicha.
Alors la chicha se fait souvent, et dans les zones plus reculées, avec de la salive aussi.
La salive de celui
qui la fabrique.
Et c'est bon à boire
vous
quand on y
testé,
pense.
Vous avez testé, Philippe ?
Eh ben, j'ai dû tester, j'ai été contraint.
Et oui, c'est ça, faut vraiment...
Bah, en fait, vous n'avez pas envie d'y penser quand vous buvez, mais en fait, ça a le goût de la chicha normale.
Ah,
ça ne change pas grand-chose.
Mais on crache dans la boisson.
On crache dans la boisson.
Ne le faites pas en ce moment.
Oui, c'est vrai.
Et alors, qu'est-ce qu'on mange dans ces établissements particuliers, ma chère
Les picanterias, c'est assez amusant parce que ça évolue au fil de la journée. C'est ouvert de 11h à 17h. Et alors, si vous venez en début de service de 11h à 14h, bah, ça commence par des petites assiettes, les picantes. Ça vient du piment, hein, picante, les picanterias. Donc, des soupes d'écrevisses. Il y a le soltero de queso, c'est une salade de fromage avec des fèves, des oignons, des tomates. Et le plat emblématique, le rocoto relleno, ce sont des gros poivrons rouges farcis avec de la viande et gratiné au fromage. Et puis après, quand vous avez en milieu de journée, vers 14-15 heures, on sert plutôt des grandes assiettes. C'est plus des petites assiettes à picorer. Et là, des grandes assiettes avec du cochon cuit. Souvent, dans les picanterias, on cuisine au feu de bois, avec du bois d'eucalyptus, parce que ça donne un très bon goût. Donc voilà, un cochon cuit lentement au four, ça donne une viande fondante, légèrement croustillante sur le dessus. C'est très très bon, accompagné de gratin de pommes de terre, parce qu'on sait que le Pérou, c'est le grand pays de la pomme de terre. Ou alors des gros épis de maïs blanc. C'est des maïs sucrés, charnus. Donc voilà, mais en fait, la picanteria, c'est une façon de manger, un état d'esprit. Il y a même un verbe picantear, comme on dit tapear en espagnol, pour aller de tapas en tapas. On dit vamos a picantear.
Ah, c'est marrant ça. Vous avez une adresse en particulier ?
Oui, j'ai une adresse formidable. Ça a été un grand moment pour moi, ce restaurant. Pourtant, Dieu sait si j'en ai fait un peu partout. Mais en fait, c'est un restaurant qui existe depuis 100 ans. Et au début, il y avait une dizaine de tables. Et petit à petit, avec le succès du lieu, le restaurant a empiété sur la maison des propriétaires. Ensuite, ils ont racheté les maisons voisines et le restaurant, comme ça, s'est agrandi progressivement. Ouais. Aujourd'hui, il y a plus de 100 couverts et c'est comme un petit village. Il y a des coins, des recoins, des petits escaliers, on monte, on descend, des grandes tables en bois. Donc, c'est un endroit très chaleureux. Et la propriétaire Monica m'a raconté que quand sa mère est arrivée à l'âge de la retraite, elle lui a demandé de reprendre la succession du lieu et de s'occuper pendant 6 ans de la picanteria, en lui disant « Après, tes frères et sœurs reprendront à tour de rôle 6 ans et on tournera comme ça. » Et Monica a refusé au début parce qu'elle considérait que ce lieu lui avait pris l'amour de sa mère qui s'occupait trop de la picanteria quand elle était enfant. Et puis un jour, elle est montée au grenier et elle a trouvé le témoignage, une lettre de sa grand-mère qui avait demandé à ses filles de s'occuper à tour de rôle du restaurant pendant 6 ans, ce que sa mère avait donc fait. Alors Monica a accepté parce qu'elle a compris qu'elle héritait d'une tradition familiale et elle a accepté. Donc, voilà,
Est-ce qu'elle s'est réconciliée avec sa mère ?
L'histoire ne le dit pas. Enfin, quand je l'ai rencontrée, je ne sais pas si... J'ai pas rencontré sa mère, mais en tout cas, elle était très heureuse et elle se donnait à fond pour son restaurant.
D'accord, très bien.
Et aujourd'hui, je dis juste quand même qu'un truc important, il y a une association depuis 2013 de défense et de promotion des picanterias et elles sont inscrites au patrimoine national péruvien, tellement c'est important.
Très bien. Vous avez choisi quelle autre partie du Pérou pour nous faire voyager ?
L'Amazonie, parce que ça, c'est aussi un grand moment de découverte pour moi. C'est un autre monde, c'est un pays dans le pays avec des marchés, des légumes, on ne comprend rien, on ne sait pas de quoi il s'agit. Il y a des poissons qui sortent de la préhistoire. Enfin, on a l'impression qu'ils arrivent
des
tout
poissons de la préhistoire.
Ouais, non, mais c'est vrai, ils ont des drôles de. Je ne sais pas si vous en avez vu, Jean-Bernard, mais
c'est
ils ont des.
De gros silures.
Oui, c'est ça, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, voilà, c'est un monde inconnu.
Et c'est bon ?
Bah, oui, si c'est bien cuisiné, après ça dépend. Là, je les ai pas mangés, je les ai regardés. Moi, j'ai mangé du chocolat au Pérou. Alors, c'est pour ça que j'y suis allée, cette fois-là, en Amazonie. En fait, j'ai été accompagnée de Stéphane Bonnat, qui est un très grand chocolatier français installé à Voiron, dans l'Isère. Et c'est la 5e génération de chocolatiers dans sa famille. En fait, il travaille, la famille Bonnat, avec des plantations depuis le 18e siècle.
Donc, c'est le gringo.
Alors, pas tout à fait. Non, parce qu'en fait, ils allaient... Ah, Nathalie, je ne sais pas, mais vous dites oui. Non, en fait, ils achetaient... ils n'étaient pas forcément propriétaires des plantations. Mais justement...
Au départ, c'était une distillerie, en fait, à Voiron, en Isère.
Ah oui,
après
oui, tout à
qu'ils
fait,
ont eu
oui.
Des... Voilà.
Mais là, par rapport au terme de gringo, en fait... Oui, parce que je le vois de façon un peu négative. Mais non, vous le disiez
non,
pas comme ça.
Non, moi, je sais par rapport aux vieilles pubs qu'on voyait avec le gringo qui allait choisir les grains de.
Oui, bah, il est un peu comme ça.
De café plutôt. Mais, là, c'est
mais c'est vrai, vous avez raison parce que.
Voilà.
Non, mais vous avez raison parce que Stéphane Bonnat, il porte le même chapeau
mais oui,
et tout ça.
Ne voyez pas malice.
C'est ça. Alors donc, mais je l'ai apporté ce chocolat parce qu'il faut quand même que vous le goûtiez. Et alors, ce qui est très particulier dans cette plantation qui s'appelle Madre de Dios, on a la frontière brésilienne, bolivienne, c'est que en fait, Stéphane Bonnat a racheté cette plantation avec un riche péruvien. Et ces 200 hectares qui ont été récupérés sur des terres dégradées par la déforestation.
Ah oui.
Donc ils ont replanté des cacaoyers, mais ils ont replanté en association avec d'autres arbres, des EVA, des bananiers, etc. Donc en fait, la biodiversité est revenue. C'est à la fois écologique et éthique parce que les travailleurs sont très bien payés dans cette plantation. Donc je voulais vous le faire goûter. Pour qui aime le chocolat, c'est un chocolat très puissant, très bon. Très rond en bouche et surtout, il n'a pas ce côté granuleux de certains chocolats.
Ouais.
Donc voilà.
Oh, mais rien, quand on ouvre le paquet, il sent fort.
Et sentez-le, voilà, regardez là.
Ah oui,
alors, il faut aimer le chocolat.
Au nez.
Ah bah voilà.
Ah oui,
c'est pour ça que je vous l'ai apporté. Il arrive tout droit du Pérou, dans deux voies rondes dans l'Isère.
Merci beaucoup, Emmanuel. Je fais circuler autour de la table.
Ah,
merci, Philippe.
Et pendant ce temps-là, on va écouter Indochine, ce qu'on aime bien, celui-là. Nos célébrations sur Europe 1, un titre sorti. En mai 2020, et Indochine qui fête quand même ses 40 ans de carrière, c'est pas rien. A tout de suite dans Et si on partait ?